Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu.
You are fake news.
Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu? Écoute, tu n'en sauras pas plus.
Et ça le fait d'email 2.
Maintenant.
Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour le premier épisode du podcasting de cette saison. Voilà 9 mois que l'on ne s'était pas retrouvé ensemble sur cette émission mythique du troisième lieu, mais rassurez-vous, on se rattrape avec ce nouvel épisode qui envoie du très lourd. Pour cette saison, le podcasting fait un retour aux sources avec non plus des chroniques dans tous les sens, mais l'ensemble du podcast centré sur un même thème. Si vous êtes assez réveillé et que vous avez les yeux en face des trous, vous savez qu'aujourd'hui on va parler des nouveaux médias et de l'esprit critique. Je suis Maïli, mais c'est Antonin qui va commencer car il faut bien qu'on sache qu'est-ce que sont les nouveaux médias pour qu'on le rejoigne par la suite avec Trévis et qu'on débatte ensemble pour savoir si l'essor des nouveaux médias nous éloigne de notre esprit critique. Ensuite, je vous propose d'explorer avec moi le concept de biais cognitif et de comment ils impactent le monde politique. Bien sûr, le meilleur pour la fin, Alex et Héloïse vont vous parler des bulles de filtre et de leur effet nocif. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute.
Et ça le fait d'email 2.
Ah, prendre son café en même temps de lire son journal. Regarder la télévision à 20h pour avoir les infos. Écouter France Culture en voiture. Que des moments de plaisir. Et non, aujourd'hui on préfère regarder plein de contenus courts sur les réseaux sociaux, écouter une émission via une application, regarder une vidéo d'actualité sur YouTube, ou même écouter un article grâce à l'IA. Mais c'est quoi ces nouveaux médias? Oh, bonne question ça. C'est quoi les nouveaux médias? Moi c'est Antonin pour le podcasting, et je vais donc vous parler des nouveaux médias. Si on se réfère à Wikipédia, l'art des nouveaux médias sont les œuvres conçues et produites en usant de nouvelles technologies, telles que les technologies de la télécommunication électronique, numérique et scientifique, qui ont émergé depuis la fin du 19e, principalement au 20e siècle. Bon, merci Wikipédia, ta définition est synthétique, mais elle ne me montre pas comment ça marche. Et oui, par quels moyens technologiques ces nouveaux médias paraissent-ils? Par quels schémas éditoriaux se différencient-ils des médias dits traditionnels? Et même, de quels médias parle-t-on quand on parle de nouveaux médias? C'est à ces trois questions que je vais essayer de répondre dans ma chronique. Alors c'est parti. La première chose auquel on pense quand on parle de nouveaux médias, ce sont les réseaux sociaux, et vous avez raison. Selon une enquête de l'INJEP Credoc sur l'année 2024, 53% des jeunes des 15-30 ans se sont informés via les réseaux sociaux, soit la source d'information la plus plébiscitée par cette tranche d'âge. Toutefois, il faut quand même distinguer deux types de médias sur les réseaux sociaux. Le premier, ce sont les médias traditionnels qui ont investi les réseaux sociaux afin de s'adresser à un public plus jeune. Et le second, des médias plus indépendants, mais attention quand même à cette indépendance. On peut ainsi mettre le fameux compte que tout le monde connaît, Explore Média. Non, je rigole. Même si ce média, sur les découvertes, la science et l'innovation, commence à se faire connaître, mine de rien. Non, je parlais bien sûr d'Hugo Décrypte, de son vrai nom Hugo Travers, diplômé de Sciences Po, et dont son compte YouTube cumule 3,55 millions d'abonnés à ce jour. Alors je vous disais qu'il fallait faire attention sur le mot « indépendant », parce que certains médias qui semblent être indépendants de toute influence des médias traditionnels ne le sont pas vraiment. On peut citer par exemple le Média Brut, qui appartient à l'entreprise marseillaise de porte-conteneurs CMA CGM, mais aussi Combini, qui appartient à DC Company, une société d'investissement français spécialisée dans le secteur des médias, et qui détient le site d'information satirique, le Gorafi, qui publie de fausses informations qui cartonnent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous saviez que le Gorafi est l'anagramme du Figaro? Bref, revenons à notre sujet. Ces médias marchent bien grâce à la spécificité des réseaux sociaux, les formats courts. Les lignes éditoriales sont alors faites en sorte pour que le contenu s'adresse à un public jeune et permette d'être clair, factuel et synthétique, du moins en théorie. Tout cela est renforcé par un soin apporté au design. Il faut rajouter à cela la possibilité de communiquer via les commentaires ou un chat lorsqu'il s'agit d'un live. Et oui, on n'en a pas encore parlé de cette plateforme qui a révolutionné la diffusion live de contenu, il s'agit de Twitch. La principale fonctionnalité de Twitch, c'est de pouvoir diffuser du contenu en live tout en ayant un retour de la communauté via le chat ou espace commentaire si vous préférez. Cette réaction immédiate permet un rapprochement entre le streamer, c'est-à-dire celui qui filme, et ses viewers, c'est-à-dire ceux qui le regardent. Alors qu'à la télévision, il n'est pas possible de le faire, même si l'arrivée des réseaux sociaux a permis un peu de révolutionner cette distance émission-spectateur à la télévision. C'est pourquoi les médias traditionnels ont lancé leur propre plateforme pour justement pouvoir diffuser des lives avec un chat comme France TV par exemple pendant les Jeux Olympiques de 2024, Roland Garros de 2025 et même lors du GB Explorer du streamer Squeezie de cette année. Il est même possible via ces lives Twitch de parler d'informations comme le journaliste et célèbre animateur Samuel Etienne et son émission La Matinée Etienne. Tout à l'heure, je parlais de plateformes des médias traditionnels. Ces plateformes font aussi partie de ce qu'on appelle les nouveaux médias. Alors là aussi, on retrouve les plateformes des médias traditionnels comme France TV, TF1+, M6+, Canal+, etc. qui permettent de regarder en replay les émissions qui passent à la télévision, mais aussi de regarder des lives ou encore d'avoir plus de chaînes via Internet. Mais on retrouve aussi les plateformes de streaming issues, entre autres, d'entreprises culturelles comme Netflix, Prime Video ou Apple TV, où on peut regarder aussi du contenu soit appartenant à l'entreprise, comme les films produits par exemple par Disney, qui sont diffusés sur Disney+, ou une série produite par Netflix, ou en louant des films, principe à l'origine de Netflix. Ces plateformes permettent ainsi de regarder du contenu quand on veut et où on veut, tant qu'on dispose d'une connexion Internet. Ces plateformes de streaming commencent même à grignoter des marchés tels que le jeu vidéo pour Netflix et ses applications à télécharger sur téléphone, et le marché de la diffusion en direct avec Prime Video, par exemple, qui a déjà diffusé le championnat de France de football et qui diffuse aussi Roland Garros. Enfin, et je l'ai déjà évoqué, mais elles produisent aussi du contenu avec les séries et films à succès comme Netflix, avec par exemple K-pop Demon Hunters, un film d'animation sur la K-pop qui est devenu, en l'espace de 2 mois, le film le plus regardé de la plateforme, bien aidé par sa bande-son qui a cartonné sur TikTok. On en revient encore une fois aux réseaux sociaux. Pour terminer cette chronique, j'aimerais parler d'un autre univers que la vidéo, qui est celle de la production écrite et audio. Alors pour la production écrite, on peut penser dans un premier temps à Internet, qui a permis de dématérialiser les articles de presse en format numérique. On peut aussi évoquer l'arrivée de l'intelligence artificielle pour écouter les articles, qui vient ainsi changer la façon de produire des articles, puisque là où avant on pensait à écrire dans un format papier, qui devait apparaître sur une taille prédéfinie dans le journal, aujourd'hui, avec Internet, cette limite de taille n'est plus obligatoire, et surtout avec l'IA, il faut aussi penser à l'écriture d'une façon plus oratoire, pour que ça soit écoutable. Pour ce qui est de la production audio, la principale innovation est l'apparition de podcasts sur des plateformes comme Deezer, Spotify ou par les médias traditionnels avec l'application Radio France par exemple. Les podcasts ont permis ainsi de ne plus écouter une émission à une heure régulière, mais de l'écouter quand on veut. De plus, de nouveaux médias sont apparus grâce aux podcasts, notamment les web radios, mais aussi des podcasts de célébrités avec Léna Situation et son podcast Couch qui parle de tout, ou encore Zach en roue libre du streamer Zach Nani, et aussi Popcorn de Domingo, ainsi que les actualités du groupe Décrypte qu'on retrouve également en podcast et vidéo. On remarque ici la diversité des supports utilisés pour diffuser du contenu, ce qui peut rester limité dans les médias traditionnels, puisque même si les médias traditionnels font de plus en plus de tout type de contenu, historiquement, un média faisait soit de la presse écrite, soit de la radio ou de la vidéo. Ainsi, les nouveaux médias concernent tout ce qui se trouve être en rapport avec les nouvelles technologies permettant de communiquer, tels que les réseaux sociaux, les lives avec un chat, les podcasts, Internet, l'intelligence artificielle, etc., etc. Ces nouveaux médias se distinguent des médias traditionnels par leurs innovations, que ce soit au niveau de la proximité entre le public et le média, du fait d'un format plus court qui essaye d'être factuel et synthétique, compréhensible pour un jeune public, et d'un soin du design, mais aussi en multipliant les canaux de diffusion de leur contenu. Enfin, les nouveaux médias concernent à la fois les médias traditionnels en évolution, des médias plus ou moins indépendants, des médias issus des plateformes d'écoute, des médias qui se reposent sur une célébrité, ou encore des médias issus du monde du cinéma, donc des plateformes de streaming, parce qu'on ne parle pas que de médias ici au sens d'un média qui permet de diffuser une actualité, une information, mais on parle aussi de médias au sens de relation entre l'entité qui diffuse quelque chose et son public. C'est finalement la question qui se pose depuis plusieurs années avec ces nouvelles innovations, puisque l'objectif est de savoir comment rapprocher le public de ces entités de diffusion qui, autrefois, semblaient totalement éloignées et impossibles à atteindre. Toutefois, ce rapprochement met en place une certaine confiance entre le public et l'entité de diffusion, mais qui peut être mise à mal par divers problèmes, que ce soit les fausses informations et un fact-checking, donc une vérification d'informations partielle, de légitimité du média, du placement politique de ce dernier, avec la question de l'indépendance du média et du groupe auquel il appartient, ou encore de protection des données des utilisateurs, pas toujours explicites. C'était Antonin, merci beaucoup de m'avoir écouté. Nous allons maintenant passer au débat sur l'essor des nouveaux médias nous éloigne-t-il de l'esprit critique ?
Bonjour à toutes et à tous, je suis Maïli et je suis avec...
Antonin.
Et...
Trévis.
On se retrouve aujourd'hui pour le débat du podcasting. Ce débat portera sur l'essor des nouveaux médias nous éloigne-t-il de notre esprit critique. Déjà, même si Antonin a déjà fait sa chronique sur qu'est-ce qu'un nouveau média, j'aimerais qu'on revienne vite fait dessus pour qu'on ait tous à peu près la même définition. Pour moi, un nouveau média, c'est ce qu'on va retrouver récemment avec les réseaux sociaux, les podcasts et notamment Twitch, avec un peu cette personnification des médias. Quand j'entends personnification des médias, je veux dire qu'on a de plus en plus de personnes identifiées, de personnalités, comme journalistes de ces médias. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dessus, vous ?
Moi, je vois les nouveaux médias, en tout cas ce qui est lié aux nouvelles technologies, donc tout ce qui est lié à Internet, au numérique, et aussi avec l'intelligence artificielle maintenant. Dans les nouveaux médias aussi, on peut regrouper donc, ce qui est aussi les podcasts, notamment via les plateformes d'écoute, mais aussi toutes les plateformes de streaming, que ce soit des médias plus traditionnels, mais aussi des médias plus liés au cinéma, notamment je pense à Disney+, Netflix, qui sont quand même considérés comme des médias aussi. Tu l'as déjà évoqué aussi, mais bien sûr les médias liés aux réseaux sociaux, à Twitch aussi, YouTube bien évidemment. Et voilà, globalement, ça regroupe pour moi les nouveaux médias.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Bon, je vous propose de commencer par comment on voit ces nouveaux médias, comment on les perçoit. Qu'est-ce que nous, on en ressort de ces nouveaux médias ? Pour moi, ce qui ressort le plus, et j'en ai parlé juste avant, c'est un peu cette personnification. Ce fait d'avoir des personnalités à la tête des médias et qui nous donnent de l'information. J'ai l'impression qu'on fait plus confiance à une personne qu'à l'organisme. C'est plus la personne qui présente et parce que j'ai vu plusieurs fois sa tête et qu'elle me paraît sympathique que je vais y croire.
C'est vrai que c'est renforcé en plus par le fait que les chaînes, par exemple les chaînes YouTube, sont au début démarrées par une seule personne. Et c'est vrai que du coup, on a vraiment cette impression qu'il y a, une, comme tu le dis, une certaine personnification qui est décuplée. Après, c'est un principe qui n'est pas nouveau. Que ce soit dans les médias traditionnels, on connaît aussi quelques présentateurs mythiques de certaines émissions, mais on a vraiment effectivement cette impression qu'on fait plus confiance aux personnes qui présentent sur leur propre chaîne. Quoi.
Et moi, j'y vois quand même des limites dans cette personnification, parce que ça demande aux nouveaux médias de se construire humainement avant tout, de construire des idées d'un média. Par exemple, on demande aux personnes qui représentent le média d'être des bons humains. On leur demande d'avoir des bonnes valeurs. Notamment, moi je pense à les streamers sur Twitch, notamment. On leur pose plein de questions par rapport à l'actualité politique, tout ça, pour valider le fait qu'ils seraient des bonnes personnes.
Oui, tu veux dire qu'il y a un certain questionnement au niveau de l'orientation politique derrière.
Oui, voilà.
Plus qu'avant, en tout cas, je trouve. Oui.
Je sais pas si on fait plus attention qu'avant de cette orientation politique. C'est qu'on en parle plus avec les personnes, mais on fait moins attention sur les sources d'information, de se dire il y a une empreinte politique là ou là.
Après, je pense aussi que c'est renforcé par le phénomène de rapprochement entre le public et le streamer, si on peut dire ça comme ça. Parce que justement, là où avant, on ne savait pas spécialement, par exemple, l'orientation politique d'un présentateur sur la télévision ou même à la radio. Aujourd'hui, le fait qu'il y a le chat, les commentaires, on peut plus facilement en tout cas ressentir ou en tout cas s'imaginer une orientation politique d'un streamer ou d'un présentateur sur des plateformes, sur les nouveaux médias aujourd'hui. Je trouve en tout cas, surtout qu'il y a quand même toujours la ligne éditoriale derrière qui permet quand même de connaître un peu l'orientation du média ou de la personne.
Puis c'est plus facile d'avoir l'orientation d'une personne en lui posant directement la question via le chat Twitch que d'avoir l'orientation de toute une structure via le présentateur. Parce que le présentateur a beau être d'un certain parti, ça ne veut pas dire que la ligne éditoriale du journal, par exemple moi je pense au journal de 20h, la ligne éditoriale ne correspond pas forcément à celle du présentateur qui présente.
Oui bien sûr, mais après c'est au présentateur de la respecter parce que ça reste comme la ligne éditoriale du journal.
Oui, complètement. Du coup, t'as moins ce truc-là pour connaître l'orientation politique.
Et encore qu'aujourd'hui, on commence, parce qu'aujourd'hui, les présentateurs commencent aussi à être sur les réseaux sociaux, et parfois, on peut commencer un peu à connaître aussi leur point de vue sur certaines choses. Je n'ai pas forcément d'exemple concret, mais
oui,
ça peut renforcer. Enfin, ça peut commencer.
Il y a ce truc-là où toutes les personnalités, maintenant, on leur demande d'avoir un lien direct avec le public et de se mettre sur les réseaux, d'avoir via TikTok beaucoup ou Instagram un peu un reflet de leur vie. Je pense à Gabriel Attal qui s'était mis sur Biril, par exemple. Ensuite, j'aimerais bien qu'on se questionne sur de quelle façon on consomme ces nouveaux médias et qu'est-ce qui change avec les anciens.
Là, moi, je dirais que la consommation est beaucoup plus... Ça se rapproche plutôt de la consommation alimentaire elle est très rapide et on va essayer d'être rassasié le plus vite possible. Je peux prendre notamment l'exemple de Twitch où on va prendre en vedette une personnalité et on va la consommer pendant un temps. Et après, je l'ai observé sur plusieurs streamers, on va l'invalider parce qu'on a trouvé un autre objet de consommation. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Moi, j'étais totalement d'accord sur la consommation très rapide, en tout cas, parce que via les réseaux sociaux, on a des formats qui sont très courts. Et je trouve que ça permet, en fait, d'être très synthétique, factuel et clair. Parce qu'on a vraiment... L'objectif, c'est de faire comprendre l'information à une personne en moins d'une minute, donc en donnant toutes les infos essentielles. Et justement, en plus, c'est renforcé par le fait qu'il y a un soin qui est apporté notamment au design des posts, mais aussi aux vidéos. On va, par exemple, je prends un exemple de vidéo du Monde... On va avoir des graphiques, on va avoir des plans en 3D pour expliquer plus facilement des situations et des informations. Et il y a vraiment un soin qui est apporté, contrairement aux médias traditionnels qui, pendant longtemps, se cantonnaient à un simple reportage. Aujourd'hui, on commence à avoir quand même des reportages où on va avoir des modélisations 3D, pareil, des présentations de tableaux. Mais si on regarde début des années 2000, on avait des simples reportages et généralement, on n'allait pas plus loin.
Après, le fait que l'information soit si rapide, concise et visuelle, ça fait qu'on la mémorise peut-être mieux en nombre, mais au final, on prend moins le temps. C'est qu'on maximise notre efficacité autour de l'information, mais on la questionne moins et on s'y intéresse moins.
Oui, et puis surtout, il y a des choix qui sont faits, puisque ce sont des formats qui sont très courts, ils peuvent pas tout expliquer. Donc forcément, en fonction de la ligne éditoriale en plus, toutes les informations seront pas présentées de la même façon.
Après, t'as aussi un truc de... sur les médias traditionnels, je sais que moi, je choisis les informations que je regarde et que je lis. Alors que dans ces formats-là, c'est tellement concis que tu touches à beaucoup plus d'informations avec un panel beaucoup plus varié. Mais aussi, t'as plus de choix qui est fait par la ligne éditoriale. T'as moins de panels et du coup, t'es plus facilement biaisé par leur ligne éditoriale.
Là, je vais rapprocher, mais ça, j'ai pas trop envie d'arriver sur ce terrain-là, mais ça avantage un certain champ de la société qui est la politique. C'est notamment par ce biais du grand nombre qu'on va pouvoir plus facilement faire passer une idée politique.
En vrai, sur ce truc-là de politique, moi, je trouve que c'est beaucoup plus réel dans... pour moi, c'est pas vraiment les nouveaux médias, les chaînes télé. Ça correspond un peu au mythe, c'est pas les anciens avec les journaux, etc. Mais t'as ce truc-là, des plateaux qui vont tourner autour des mêmes sujets et qui vont avoir un choix qui va être très très orienté. Et on s'en rend heureusement de plus en plus compte. Mais ça touche une partie de la population quand même assez énorme, quoi. Ensuite, j'aimerais qu'on questionne les influences extérieures qui peuvent arriver sur ces nouveaux médias et les nouveaux lobbies. Parce qu'on a tendance à dire que les anciens médias type chaîne info ou journaux qui sont rachetés par des grands conglomérats sont complètement biaisés et sont restreints dans leur ligne éditoriale. Mais est-ce que ces lobbies-là changent de forme avec les nouveaux médias ? Je sais que j'avais entendu une critique sur Hugo Décrypte concernant le GP Explorer, où il a fait de l'information dessus, mais il a rien dit sur l'impact environnemental du GP. C'est un truc qui lui a été reproché, du fait qu'il était biaisé parce que c'était ses potes, etc., qui faisaient le GP. Et du coup, il a rien dit sur l'impact environnemental alors que d'habitude, il loupe pas le coche. Donc est-ce que ces nouveaux médias, ils changent un peu de lobby ?
C'est un peu le problème des nouveaux médias, c'est qu'effectivement, soit ils ont été rachetés par des grands groupes médiatiques, enfin même pas forcément médiatiques, par exemple Brut a été racheté par CMA-CGM, l'entreprise qui est à Marseille. Et c'est vrai, le problème de ces nouveaux médias, c'est que forcément, ils doivent respecter des valeurs, une ligne éditoriale qui est dictée par l'entreprise mère qui les détient. Et dans le cas du GoDecrypt, bien sûr, il y a le problème du fait que ce soit ses amis qui participent au GP Explorer et qui ne va pas forcément faire des sujets néfastes sur des projets de ses copains. Mais aussi, il ne peut pas non plus dire des choses néfastes sur, par exemple, des collaborations qu'il a pu avoir avec des entreprises, parce qu'il fait beaucoup ça aussi. Il ne peut pas non plus se permettre de faire des sujets néfastes sur les réseaux sociaux. Enfin, pas en tout cas comme on peut l'entendre au niveau des médias traditionnels, parce que c'est son moyen de diffusion premier, les réseaux sociaux. C'est bien sûr le problème de ces nouveaux médias, mais j'ai envie de dire qu'on retrouve la même chose aussi dans les médias traditionnels, qui appartiennent à de grands groupes, TF1 avec Bouygues par exemple. Donc c'est un principe qui n'est pas nouveau. Mais c'est sûr qu'au début, quand ces médias sont arrivés, on a cru qu'il y aurait une certaine indépendance vis-à-vis de l'économie, des grandes entreprises en tout cas. Mais en fait, on s'en rend compte que malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que prévu.
Pour moi, ce fait-là de se rendre compte que les nouveaux médias n'échappent pas à toutes ces influences, c'est le cas de tout Internet. Internet, au début, c'était quelque chose de très libre. Et là, on voit un cadre qui se met, on voit des influences extérieures qui s'y implantent. Et il y a de moins en moins d'impartialité et de liberté sur ce genre de plateforme. Il faut qu'on évolue aussi avec ça.
Justement, moi, j'y voyais l'ambiguïté que tu dénonçais par rapport à Hugo Décrypte. C'est aussi, on demande à une information qu'elle nous arrive et qu'elle soit neutre. Sauf que l'information des nouveaux médias ne sera pas neutre parce qu'elle est dictée par la ligne éditoriale. Donc, que faire quand on reçoit une information? C'est là la question qui se pose, notamment avec, je sais pas si vous connaissez l'esprit critique, c'est un média. J'avais vu à un moment qu'on lui reprochait qu'il avait des tendances, on attribue notamment des tendances centristes, voire macronistes, parce qu'il va plutôt d'un penchant, il dit plutôt une information qui va vers un penchant politique, alors que les nouveaux médias servent à dicter de nouvelles informations normalement. C'est là où il y a une ambiguïté entre ce que veulent les gens et ce que doit faire un nouveau média.
Après, c'est sûr qu'il y a toujours, de toute façon, des personnes qui seront en désaccord avec certains médias, d'autres qui seront plus en accord avec certains médias. C'est aussi la pluralité des opinions qui veut ça, et comme on est en démocratie, ça me paraît aussi logique. Après, ce qui est intéressant avec l'esprit critique, c'est qu'il essaye quand même de rester neutre, on va dire ça comme ça, en essayant de décrypter ce qui se passe, notamment au niveau de la politique. Certains jugent qu'il a effectivement des opinions plutôt centristes, macronistes, mais en même temps, il essaye aussi de rester vrai. Neutre, même si c'est un mot qui n'a pas vraiment de sens en réalité, dans une société qui cherche à tout politiser.
Puis ils assument aussi le fait de ne pas être neutre. Maintenant, certains des nouveaux médias le répètent, on n'est pas neutre, faites attention, vérifiez vos infos, etc. Même si c'est pas fait derrière et que, in fine, ça a un côté plus rassurant de « je vais leur faire confiance parce qu'ils ont conscience de leur manque de neutralité », au moins, c'est quelque chose qui est répété et qui finira par rentrer.
Ouais, c'est pour ça que je disais, le mot neutre n'a pas vraiment de sens, parce que justement, c'est pas possible en fait d'être neutre, on a forcément des opinions sur tout. On est en recherche de la neutralité, mais en réalité, elle n'existe pas, quoi.
C'est un peu la différence entre apartisan et apolitique. C'est qu'on peut être apartisan, c'est-à-dire ne pas se revendiquer d'un parti, comme peut le faire l'esprit critique ou plein d'autres médias, mais on ne sera jamais apolitique. C'est-à-dire complètement éloigné de la politique, sans empreinte politique, même sans forcément parler de politique. Dès qu'on parle d'actualité ou de quoi que ce soit, dès qu'on fait un sujet, tout va finir par être politique, parce que même dans le choix du sujet, on a cette empreinte-là et on a ce biais-là. Bon, on arrive sur la fin et j'aimerais vous poser une dernière question. Pour vous, comment ça va évoluer tout ça? Qu'est-ce que seront les nouveaux médias des nouveaux médias?
La réponse facile, c'est grâce à l'IA. C'est avec l'IA. De toute façon, l'intelligence artificielle, l'arrivée de l'intelligence artificielle va forcément faire évoluer encore ces nouveaux médias. On n'en a pas encore trop parlé, mais la désinformation, tout ce qui est fake news aussi, ça va être beaucoup de fact-checking, donc le fait de vérifier les infos. Je pense que ça, c'est quelque chose qui risque de s'amplifier beaucoup, parce que justement avec l'IA et la possibilité de faire des fausses informations, ça risque beaucoup de s'amplifier. Et sinon, pour l'instant, c'est compliqué à dire comment vont évoluer ces nouveaux médias.
Puis quelle forme ça va prendre avec l'IA? C'est qu'on peut avoir la désinformation, on voit aussi maintenant que même au niveau des supports visuels, des vidéos, des... Comment ça s'appelle ça déjà? Le fait d'emprunter le visage de quelqu'un.
Les deepfakes.
Voilà, ouais. Les deepfakes. Et puis on arrive à dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a eu beaucoup de cas de visages empruntés à des gens morts, tels que Martin Luther King. Il y a eu une plainte des victimes sur ça. C'est la nouvelle IA, la Sora, qui pose énormément de soucis là-dessus. Et comme le droit a tendance à être vachement en retard, et surtout que ça doit être au niveau international que ça doit se cadrer, je sais pas s'il n'y a pas un danger de ce côté-là, de l'information qui pourrait être gérée par l'IA sans être cadrée juridiquement.
Et c'est d'autant plus dangereux, je trouve, parce que notamment, y a Elon Musk avec la plateforme X, anciennement Twitter, qui promeut ça, les bienfaits de l'IA, le développement vers de nouvelles technologies. Alors que ça a des limites et je dirais pas ils ferment les yeux, mais ils essayent de passer outre. Alors que c'est quand même un très gros blocage, le fait que l'IA permet de désinformer, d'emmener des gens sur des terrains où ils sont pas forcément conscients de ce qu'ils font.
Je trouve que tu as aussi un danger concernant les algorithmes. C'est que ça touche déjà les nouveaux médias, mais encore quand tu restes dans un média ou quoi... Enfin, ça va encore, tu vois, quand t'es dans la même branche, rien ne bouge. Mais est-ce que ça va pas s'amplifier? Est-ce qu'on va pas avoir encore plus de prises de parti, encore plus de biais de confirmation? Pour rappel, un biais de confirmation, c'est le fait d'avoir une certaine conviction et de s'enfermer dedans en voyant que des confirmations à cette conviction, là où se porte notre regard.
Et qui est renforcé par les algorithmes, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi d'autres médias.
Ouais, et je me demande quelle forme ça va prendre par la suite, ces algorithmes. À quel point ça va s'amplifier, parce qu'on voit déjà que dès qu'on tape n'importe quoi dans une barre de recherche, ils nous font un profil et quelque chose comme ça.
Moi, j'aimerais rajouter quelque chose d'autre sur les nouveaux médias, c'est concernant leur ampleur au niveau du champ médiatique. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont finir par dépasser les médias traditionnels? Est-ce qu'il va y avoir une certaine collaboration entre les deux? Ce qu'on commence bien à voir maintenant, notamment au niveau des émissions sur la télévision qui peuvent être présentées par des streamers. On avait vu Hugo Décrypte sur France 2, mais on a vu aussi, par exemple, France TV qui avait diffusé le GP Explorer, la course de voitures de Squeezie. Donc ça sera aussi à voir comment ça va évoluer entre les deux. On a vu aussi les médias traditionnels qui sont maintenant sur les réseaux sociaux et qui produisent aussi des podcasts. Ça, par contre, aussi, ça va être intéressant de voir comment cette collaboration elle va se faire, ou alors si les nouveaux médias vont finir par vraiment dépasser les médias traditionnels. On sait que les 15-30 ans sont quand même 53% à s'informer sur les réseaux sociaux en 2024, donc ça fait quand même plus de la moitié. Est-ce que ce chiffre va encore augmenter ou pas? Est-ce que ça va aussi toucher d'autres tranches d'âge? Ça aussi, ça va être intéressant à voir, à suivre concernant ces nouveaux médias.
En tout cas, ça va être une belle évolution. On espère que ça va se poursuivre au mieux et qu'on pourra régler ces problèmes d'impartialité. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette émission vous a questionné sur le sujet. On se retrouve pour un prochain podcasting. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Bonjour à tous, c'est Maëlie. Dans un précédent podcasting, je vous avais parlé des procédés rhétoriques et de leur application en politique. Et aujourd'hui, on va encore parler de rhétorique en politique, mais cette fois en voyant quels biais cognitifs peuvent influencer le monde politique. La notion de biais cognitif a été introduite par les économistes Daniel Kahneman et Amos Tversky dans les années 70. Selon Jean-François Leni, on pourrait définir un biais cognitif comme la distorsion qu'une information subit en entrant ou sortant d'un système cognitif. Autrement dit, c'est le fait qu'inconsciemment notre cerveau va transformer une information que l'on reçoit. Alors cette perception faussée va avoir une influence sur notre vie quotidienne, notre perception du monde et nos partis pris. Ces biais sont pour la plupart identifiés et identifiables, mais il reste compliqué de s'en défaire. Ces biais ont été reconnus pour la première fois dans le domaine économiste, comme on l'a vu. Et on les retrouve beaucoup dans les domaines rhétoriques et sociologiques, mais il y a un vrai enjeu scientifique derrière, avec des études psychologiques qui sont menées. Ces biais cognitifs, bien que faisant partie de notre vie, sont dangereux. Ils influencent notre façon de penser et renforcent nos stéréotypes. C'est donc à nous de nous en protéger. Les biais cognitifs peuvent influencer les politiques dans leur façon de voir et de présenter les choses. Ils peuvent aussi nous influencer, nous, dans notre façon de voir ces politiques et d'interpréter leurs discours. Alors tout d'abord, quels biais cognitifs on retrouve dans ces discours politiques? On va avoir l'inférence arbitraire. L'inférence arbitraire pousse à émettre une conclusion hâtive sur la base de faits intangibles, de faits qui ne sont pas concrets. Cette inférence arbitraire est souvent évoquée pour la divination, car sans avoir d'éléments concrets, matériels, on va prédire l'avenir. En politique, c'est plus subtil. On va avoir tendance à rapprocher ça de la notion d'opinion. Ça va être plutôt lorsqu'un politicien affirme un pronostic avec aucune source, aucune base scientifique. Ensuite, on va retrouver la pensée ou le raisonnement dichotomique. Le raisonnement dichotomique, c'est le fait de penser de façon manichéenne, c'est-à-dire tout est noir ou tout est blanc. Ici, on ne prend pas en compte les nuances d'une situation, on va forcément être dans le négatif ou à contrario dans le positif. Il y a toujours cette idée de dualité. D'ailleurs, le terme dichotomie est souvent remplacé par les mots binaires ou polarisés. Le raisonnement dichotomique va être utilisé pour analyser une situation ou un parti. On va être dans cette vision dichotomique lorsqu'on va dénigrer un parti. On ne lui accorde aucun point positif, par exemple. Il faut bien comprendre que les biais cognitifs sont inhérents aux personnes. Le raisonnement dichotomique, ce n'est pas seulement dire qu'un parti n'a rien de bien, c'est aussi le penser. Ne trouver personnellement à ce parti aucun intérêt. Enfin, toujours du côté des discours politiques, on a l'illusion de corrélation. On est souvent confronté à ce biais, surtout dans les théories du complot. L'illusion de corrélation, c'est voir une relation entre deux éléments complètement distincts, ou extrapoler une relation effective. On va souvent retrouver ce biais illustré par l'étude des courbes. C'est-à-dire que si des études présentent des résultats qui schématiquement donnent des courbes identiques, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre ces deux études. Le fait qu'il y ait une corrélation, donc un point commun, ça ne sous-entend pas qu'il y a une causalité, donc l'influence d'un fait sur l'autre. Par exemple, entre 2002 et 2023, l'année où la production de fromage en France a été la plus forte, c'est 2012. Mais c'est aussi l'année des attentats de Toulouse. L'illusion de corrélation nous dirait qu'il y a un lien entre ces deux faits, mais rien ne relie des attentats au marché du fromage. C'est donc une coïncidence et non une causalité. Maintenant, qu'est-ce qui peut vous influencer, vous, dans l'image que vous avez des politiques et de leurs propos ? On va voir quatre autres biais cognitifs, dont le dernier que je vous inviterai à explorer vous-même en partie, car je ne pourrai pas discourir sur tous ces aspects. En premier, on a le plus connu, le biais de confirmation. Le biais de confirmation consiste à prendre en compte seulement ce qui confirme nos opinions ou nos croyances. Ça nous pousse à nous conforter dans ce que l'on croit être la vérité. De nos jours, ce biais est de plus en plus présent avec les algorithmes des réseaux sociaux, qui nous montrent ce que l'on connaît et qui confirment notre vision du monde. C'est une manière de se protéger de la dissonance cognitive. Cette dissonance cognitive se traduit par une tension interne suite à une contradiction entre nos attitudes, croyances ou comportements. Ça peut être le fait d'être mis face à une vérité ou un fait que l'on est obligé d'assimiler, mais qui va complètement à l'encontre de ce que l'on croyait. En politique, ce biais de confirmation, ça peut être le fait de n'écouter que les personnes et les avis de son propre parti, ou de se renseigner avec un unique média. Ensuite, on va avoir l'effet de halo. L'effet de halo, c'est le fait que notre perception d'une personne ou d'un groupe dépend de l'opinion qu'on en a. Par exemple, on va forcément croire quelqu'un dans toutes ses paroles si on le trouve intelligent. Ce biais nous empêche de voir au-delà de la personne qui tient le propos. On va faire une confiance aveugle dans les gens que l'on estime. Pour moi, il est particulièrement dangereux quand quelqu'un a de l'autorité sur une autre personne, car cette dernière ne va pas remettre en question ses propos, agissements ou demandes. Historiquement, cet effet de halo se constate avec la vision que les Français avaient de Pétain. Beaucoup l'estimaient pour ses exploits pendant la Première Guerre mondiale, et il a été difficile pour eux de réviser leur jugement pour ce qu'ils considéraient comme un héros de guerre. Un peu en lien avec l'effet de halo, il y a le biais de représentativité qui peut se traduire par « l'habit ne fait pas le moine ». Le biais de représentativité nous incite à baser notre jugement uniquement sur des éléments extérieurs pour nous faire une idée d'une personne. Sans chercher à creuser, on va catégoriser quelqu'un en fonction de ses habits, sa posture, son éloquence ou même sa réputation. Sur un plateau télé, on va trouver les costards-cravates plus sérieux que celles et ceux qui portent un simple pull ou une casquette, qui vont être vus comme plus lambda. Pour finir, et parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps sur ma chronique, on va retrouver le biais du favoritisme intra-groupe ou endogroupe. Je ne connaissais pas ce biais avant de faire mes recherches, mais le favoritisme intra-groupe ou endogroupe, c'est la tendance à favoriser les personnes qui appartiennent au même groupe que nous. Ça peut notamment influencer nos choix de vote, c'est le principe même du mouvement populiste. On va voter pour quelqu'un qu'on pense proche de nous, qui appartient au même groupe, qui nous comprend, qui a vécu les mêmes choses. C'est notamment pour ça que la plupart des politiques vont se créer des personas. Le persona, c'est la personnalité et l'identité publique de quelqu'un. Si un politique se proclame comme d'une certaine classe socio-économique, il a plus de chances de récupérer les votes de cette classe, car beaucoup seront influencés par ce biais du favoritisme intra-groupe. Ce biais a aussi une grande portée sociologique, mais je vous laisse creuser ça de votre côté. J'arrive à la fin de cette chronique, merci de m'avoir écouté, et comme toujours, j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair, et je vous souhaite d'être vigilant face aux discours politiques. À bientôt!
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être fixé sur un sujet, sur des vidéos de bébé chat par exemple? Tu lances une recherche, t'interagis un peu sur ces types de vidéos, les envoies peut-être même à des potes, ou peut-être plutôt à la grand-mère, et le lendemain, tu te rends compte que ton fil d'actualité sur Insta, ou ton pour-toi sur TikTok, est blindé de vidéos de bébé chat. Bienvenue à toutes et à tous, c'est
Alex
et Hello, et pour cet épisode, on aimerait bien vous parler des bulles de filtre sur les réseaux sociaux. Cher Alex, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce phénomène ?
Alors, qu'est-ce que c'est que des bulles de filtre ? C'est un mécanisme de filtrage d'informations qui influence ce qui nous est montré en tant qu'usagers d'Internet et notamment des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, etc. Toutes nos activités sont traquées et analysées par les plateformes. Le like, le partage, le commentaire, toute interaction avec des contenus proposés. Ce sont tous des dispositifs de personnalisation qui sont finalement mis en place pour prolonger le plus longtemps possible la durée de notre consommation de contenu sur les réseaux. Parce que si les plateformes nous proposent du contenu qui ne nous intéresse pas ou nous intéresse moins que d'autres contenus pourraient le faire, la probabilité que nous arrêtons de regarder augmente. Alors si le contenu proposé est adapté et personnalisé au mieux, à nous et nos préférences, nous allons probablement le regarder plus longtemps, ainsi voir plus de publicité, ce qui apporte de l'argent aux plateformes. Et en plus de pouvoir nous afficher plus de publicité, celle-là est aussi de mieux en mieux ciblée sur nos intérêts. Ce qui leur permet de demander plus d'argent pour l'affichage de ces pubs aux entreprises. Voilà pourquoi la publicité constitue la principale source de revenus des réseaux sociaux numériques. Chaque j'aime et chaque partage dans notre story signale alors à la plateforme des indications sur nos goûts et préférences qui ont un impact instantané sur l'algorithme et le contenu qui nous est proposé.
On s'est demandé d'où vient cette notion de bulle de filtre. Elle a été introduite par le journaliste américain Eli Pariser. Il a rédigé un livre intitulé « The Filter Bubble » en 2011. Dans son bouquin, il décrit comment la personnalisation des contenus par les algorithmes va contre l'intérêt original de l'Internet. D'après lui, l'Internet est censé représenter un espace public qui fait résonner les opinions et perspectives diverses et multiples du monde. Mais suite aux bulles de filtre, notre sphère digitale représente plutôt un espace égocentré et isolé. Un isolement intellectuel qui nous confronte moins avec d'autres visions qui pourraient différer de la nôtre. Nous incitons donc à demeurer dans un espace restreint. Ceci a pour conséquence qu'on reste enfermé dans notre propre bulle de filtre. Si ces propos t'intéressent, je t'invite vivement d'aller regarder son TED Talk qui est nommé « Beware Online Filter Bubbles » sur YouTube. On veut bien décrire un exemple de comment ces bulles de filtre peuvent devenir nocifs et parfois même dangereuses pour certaines et certains. On part d'un principe controversé. Les réseaux sociaux mettent en avant une image idéalisée, même irréelle, du corps de la femme, ce qui installe un rapport malsain à son propre corps. Et les premiers touchés, ce sont souvent les jeunes adolescents. La prochaine étape est souvent qu'ils se demandent comment atteindre ce fameux corps idéal, celui qui va te rendre beau, attirant, digne d'être aimé. Alors tu te mets à liker, à suivre des contenus sur le sport, la nutrition, bref, à interagir avec des contenus qui se focalisent sur les sujets d'optimisation physique. Et l'algorithme, lui, il comprend « Ah, ça tu veux en voir plus !» À partir de là, ton fil d'actualité se sature de vidéos de femmes très minces qui expliquent les meilleures méthodes pour avoir un ventre plus plat, des fesses plus rondes, des jambes plus définies. On te montre des journées dans leur assiette avec des apports caloriques ridiculement bas, parfois à peine suffisants pour tenir une journée normale. Des recettes ultra low calorie, sans gras, sans sucre, sans rien. Et voilà la raison pour laquelle le nombre de jeunes, surtout de jeunes filles, diagnostiquées avec des troubles de comportement alimentaire augmente radicalement. Ces vidéos existent par millions et souvent elles sont créées par des personnes qui elles-mêmes souffrent de TCA. Le résultat est donc des personnes, entre guillemets, malades, consomment les contenus d'autres personnes malades, ce qui les plonge encore plus profondément dans leur obsession et leur comportement troublé. Et ceci est accentué par les algorithmes personnalisés. Quand tu ouvres Instagram et que tu es immédiatement exposé à ces types de contenus, ça devient presque impossible de te rendre compte que tout ça est toxique et malsain. Les algorithmes ne remettent pas en question si c'est troublant de recommander des recettes low-calorie à des jeunes ados en développement. Ils sont programmés pour te captiver le plus possible, peu importe des contenus que tu consommes. On reste ainsi pris dans un cercle vicieux et on est peu confronté à des solutions ou à des avis d'experts qui portent un regard plutôt critique sur ces types de vidéos.
De la même façon que les discours sur le corps idéal peuvent renforcer les troubles des conduites alimentaires et créer une bulle de filtre dans laquelle ne rentre aucune vision différente du monde et du rapport au corps et l'alimentation, ces bulles de filtre peuvent se créer sur toutes les thématiques et être moteur de radicalisation et polarisation. Cela devient d'autant plus inquiétant quand il s'agit de discours et d'enjeux politiques. Par exemple, quand on regarde aux États-Unis avec les discours des démocrates et des républicains, ou alors en France dans les bulles de filtre de l'extrême droite. Et cela devient encore plus contraignant puisque le contenu que l'on consomme est devenu toujours plus court, toujours moins nuancé. Le but, c'est pas d'informer ou de débattre, c'est de choquer et de cartonner sur les réseaux. Est-ce que ceci n'a pas pour conséquence une vue beaucoup plus restreinte et fermée du monde ? Est-ce que cela ne nous enferme pas dans des bulles sans être confrontés aux avis différents du nôtre ? C'est la question et l'enjeu du propos d'Eli Pariser.
Mais il est important de rappeler que ce phénomène de bulle de filtre n'est évidemment pas exclusif aux réseaux sociaux. Bien avant l'Internet, on vivait déjà dans nos petites bulles, dans nos quartiers, au travail, dans les cafés d'habitude. On fréquente souvent des gens qui partagent notre avis. On lit le même journal, on regarde la même chaîne de télé. Bref, on suit nos habitudes. Alors aujourd'hui, pourquoi pas changer d'approche ? Testez une nouvelle chaîne de YouTube que vous ne regardez jamais. Suivez un média qui ne correspond pas forcément à votre habitude. Exposez-vous à d'autres avis et essayez de comprendre d'où provient leur point de vue. C'est d'ailleurs là que je pense au Courrier International, un journal qui sélectionne et traduit des articles issus de la presse du monde entier. L'idée, c'est d'offrir aux lecteurs francophones des angles et des interprétations venus d'ailleurs, souvent très différents de la vision française de l'actualité. C'est un média précieux pour comparer les perspectives et surtout sortir de sa propre bulle d'information. Et puis, précisons-le, le but n'est pas de dénoncer tous les algorithmes personnalisés. Comme toujours, tout est nuancé. Les algorithmes peuvent aussi vous faire découvrir des nouvelles choses. On a tous déjà eu une recommandation vraiment utile ou surprenante sur les réseaux.
D'ailleurs, le concept des bulles de filtre n'est pas incontesté. Il y a notamment Fletcher qui pense que les réseaux sociaux ne nous enferment pas dans des bulles de filtre, mais nous confrontent justement, même au contraire, avec beaucoup d'informations qu'on n'aurait jamais recherchées, trouvées par nous-mêmes. Et cela élargit donc plutôt notre horizon, au lieu de le limiter et de polariser les points de vue, comme le dit Parisé. Tout cela nous amène donc à vous dire que les réseaux sociaux ne sont ni totalement méchants, ni à glorifier. Tout est nuancé et il est surtout important de garder un esprit critique et de la curiosité quand vous vous baladez sur Internet et dans les réseaux sociaux.
En tout cas, moi je trouvais ça très intéressant de s'interroger sur les bulles de filtre. Aujourd'hui, quand je vais sur les réseaux, sur Insta ou TikTok, etc., moi je me demande toujours pourquoi est-ce qu'ils me montrent ces contenus et quelle influence est-ce que éventuellement ça a sur ma vue et ma perspective. Bref, si vous ouvrez Insta aujourd'hui et vous remettez pendant juste une seconde en question pourquoi est-ce que vous voyez ce type de contenu, nous, on a atteint notre but. On vous remercie d'avoir écouté et...
À la prochaine!
Les salpétinelles 2!